Et on retrouve tout de suite Mélève et Malka, une émission qui vous est présentée par Bernard Aboif.
Bonsoir à tous, Bernard Aboif au micro. On se retrouve comme chaque samedi soir pour Mélève et Malka, une grande émission de Torah et de pensée juive. Et nous avons décidé, en cette veille de rentrée, de faire un peu, de demander au rabbanim, puisque nous avons vécu une année très difficile. C'est terminé quasiment par l'attentat de Sydney, et qui a été tel que nous l'avons tous connu. Donc quels sont, pour ainsi dire, les conseils, les réflexions de nos rabbanim qui font cette émission pour la rentrée qui arrive lundi. Et Rav Eli Lemel, c'est à vous que je vais demander d'ouvrir notre réflexion de ce soir, donc à la veille de la rentrée.
Oui, tout à fait, nous sommes à l'aube d'une rentrée, clairement. C'est une rentrée, ça y est, il y a eu 2025, il y a 2026. On peut au moins se souhaiter des bonnes années fiscales. Et ce qui est sûr, c'est que oui, il y a cette notion-là qui est présente. Et donc, on ne va pas la mettre de côté. Pour mieux savoir comment, au fond, l'appréhender, j'aimerais citer ce texte d'un très grand maître de l'éthique, du Moussar, qui est le Rav Israël Salanter, qui dit « Adam asur besichlo vechofshi bedimyono », ce qui veut dire que l'individu est littéralement prisonnier de son intellect et ne se sent libre que dans son monde imaginaire. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire? Au fond, quand on renvoie les choses à une réflexion pure, eh bien, voilà, il y a des cadres. Par contre, le dit Mayol, l'imaginaire est sans limite. Et c'est peut-être ça, au fond, tout le danger. Le danger, c'est de se projeter, c'est d'imaginer, et donc de se voir face à toutes les situations possibles, tous les scénarios possibles, qu'est-ce qui se passe, le gouvernement, le dollar, Trump, l'Ukraine, enfin voilà. Et donc, à partir de cela, comme en plus aujourd'hui, au niveau du monde des médias, on a tellement de lectures multiples et variées des événements, ça crée une forme d'anxiété. Ça crée une forme d'anxiété parce que on nous ouvre à toutes les possibilités et à partir de cela, eh bien, les énergies, la plupart du temps, vont être utilisées pour pouvoir se protéger par rapport à cette anxiété qui est là. Et il y a un effet presque sclérosant et enfermant lorsqu'on se confronte à cette réflexion et parce que justement, ce n'est pas une réflexion. Ce qui est intéressant, c'est de se dire, bon voilà, nous sommes dans une réalité d'un monde changeant, dans un monde assez imprévisible, dans un univers dans lequel eh bien, on ne sait pas trop de quoi le lendemain sera fait. Alors, ben c'est ça qui va peut-être nous pousser à nous rappeler de cette fameuse phrase qui nous dit que David, Vaïchen David, Bachem Elokav, que David, le roi David, s'est justement appuyé sur l'éternel son Dieu. C'est intéressant parce qu'un de mes maîtres faisait remarquer que le fait qu'il y ait marqué Vaïtrazek David, que David s'est renforcé, puisque c'est ça le verset, Vaïtrazek David Bachem Elokav, que David s'est renforcé dans Dieu son Dieu, c'est au fond resserrer notre lien avec le Créateur de l'univers, se dire voilà, nous devons continuer à agir au quotidien, le monde du travail, savoir se protéger, être vigilant, réfléchir avec notre tête et nous dire mais s'il se passe telle et telle chose, alors quelle est la chose la plus intelligente à faire, mais en même temps, eh bien, renforcer, je crois, vraiment notre relation avec Akadosh Baruch Hu. Vous savez, la réalité de ce qui a été vécu cette année est tellement surprenante et tellement inimaginable que, à partir de là, eh bien, on va se mettre un petit peu plus dans les bras d'Akadosh Baruch Hu. Se mettre dans les bras d'Akadosh Baruch Hu, ce n'est pas ne plus bouger, ne rien faire, être dans une forme d'état de sidération, pas du tout. C'est se dire, eh bien, de toute façon, l'histoire, nous ne la maîtrisons pas. L'histoire, elle ne nous appartient pas véritablement. Il y a d'autres choses, il y a d'autres paramètres. Et ces paramètres-là, paradoxalement, c'est sur cela qu'on peut agir. Puisque, au fond, c'est quoi le but de la création? C'est que l'être humain retrouve le contact avec le Créateur. Il faut se servir justement de ces moments dans lesquels la logique humaine n'est plus totalement au rendez-vous. Quand on voit que des personnes sont capables de mentir sans aucun problème pour faire un narratif d'une histoire, que ça soit dans ce qui se passe en Israël ou ailleurs, qui sont absolument folles et que les gens les croient. Donc, ça y est, on n'est plus dans la logique. On n'est plus dans la logique, puisque cela, les gens ont envie de se persuader que ben, c'est ce qu'ils disent qui est la vérité et donc ne plus se confronter à la réalité du monde dans lequel ils se trouvent. Alors, en tant qu'être juif, justement, c'est ça notre enjeu. Se reconnecter à soi-même et se dire, mais au fond, qu'est-ce qu'on attend de moi dans cette vie ? De créer une meilleure version de moi-même, d'avancer, de progresser, de nous renforcer et d'être dans une certaine forme de regard avec distance sur le monde qui nous entoure, nous y impliquer au quotidien, mais se rappeler que la trame de l'histoire se tisse ailleurs à travers notre démarche spirituelle. C'est peut-être cela, au fond, qui nous permet d'aborder les choses avec plus de sérénité, avec plus de tranquillité, évidemment avec un regard vigilant, avec un regard qui nous amène à savoir réagir de manière adéquate face à certaines situations, mais en même temps, ne pas tomber dans le piège de cet imaginaire qui, au bout d'un moment, peut nous entraîner un petit peu partout et nous empêcher véritablement d'avancer et de continuer à construire. Je crois que c'est peut-être là où est un des enjeux importants, en tout cas à l'aube de cette rentrée. Et je suis sûr qu'en vérité, tout le monde est prêt à le faire. Ce qui est important maintenant, c'est de le mettre en action.
Ravi du Lemel, je vous remercie. Bonsoir à vous et Shavuot. Et on part à présent pour Jérusalem, on le retrouve Rav Mordechai Biton. Bonsoir Rav Mordechai et Shavuot Tov.
Shavuot Tov, Mazel Tov.
Alors, Rav Mordechai, pour nous ici en France, c'est la rentrée, lundi. On vit des moments qui sont très très perturbés, très difficiles. Je pense que beaucoup même des fois se disent, bon bah voilà, c'est la rentrée, c'est un peu, faut un peu remettre une forme de fardeau. On peut appeler ça comme ça, je sais pas. Et vous les rabbanim, vous avez des choses à dire par rapport à ça. Alors je ne parle pas du problème du travail, du problème économique que connaissent toutes les sociétés occidentales, c'est pas de ça qu'il s'agit, mais pour nous juifs de France, il y a un truc en plus quoi, avec une année qui n'a pas été marrante tous les jours. On a fini l'année y compris avec ces deux petits gamins qui jouaient tranquillement à la PlayStation dans un aéroport et qui se retrouvent avec quelqu'un qui les met en demeure de dire free Palestine, Palestine libre. Qu'est-ce que vous inspire, vous, cette nouvelle saison qui démarre, cette nouvelle année, si on parle en termes d'année civile française, mais moi j'appelle ça la rentrée. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, Rav Mordechai Biton?
La rentrée 2026, on va dire comme ça, ça signifie beaucoup de choses hein, sur le plan fiscal, sur le plan. Et puis les gens, l'environnement dans lequel les Juifs de France vivent, c'est un environnement politique aussi. On parle de rentrée politique, on parle d'une année d'élection, élection municipale, etc., etc. Donc il y a toutes sortes d'éléments, si vous voulez, qui, dans les oreilles des gens, vont rythmer l'année. Et ces enjeux-là sont des enjeux essentiellement politiques. Et pour les Juifs de France, les enjeux politiques aujourd'hui sont devenus fondamentaux parce que le gouvernement qui est en place, le président de la République, les institutions sont tenues par des gens qui sont ouvertement ou sourdement hostiles à Israël et qui ne savent pas prendre les mesures qu'il faut face à l'islamisme. Donc c'est tout à fait normal que les gens sentent que ce qui va se passer là dans les mois qui viennent soulève chez eux de grosses inquiétudes. Moi, je crois qu'il faut que chacun d'entre nous soit capable de se dire trois choses. D'abord, l'Ève va s'arriver à Melachim Bayad Hashem. Le cœur des princes est entre les mains d'Hashem, ce qui est très rassurant pour nous parce que nous, on prie Hashem et nos prières, elles sont entendues. C'est le deuxième point. Troisième point, il faut savoir aussi que, comme le rappelait souvent Rav Sitruk en son temps, l'histoire suit un plan. Et en fait, au niveau de la macro-histoire, il n'y a pas de libre-arbitre. Il n'y a aucun libre-arbitre au niveau de la macro-histoire. Il y a un libre-arbitre au niveau de la micro-histoire. Mais au niveau de la macro-histoire, il y a un plan. Et donc, il faut souhaiter que ce plan se réalise dans les meilleures conditions. C'est ce qu'on dit tous les jours quand on se souhaite Yeshua Berachamim, on se souhaite la délivrance dans la miséricorde, que ça ne soit pas dans la souffrance. Donc, je crois que c'est au travers de ça qu'il faut passer, vous voyez, dans ce temps grégorien, si je puis dire. Il faut garder en tête les catégories du temps juif, et la manière dont on se rapporte, nous, à notre propre histoire. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, je pense qu'il faut garder en tête aussi que beaucoup de gens vont tenter de nous faire rentrer dans des problématiques qui ne sont pas tellement les nôtres. C'est-à-dire qu'on va tenter de nous faire confondre, si vous voulez, les alliances politiques avec des enjeux identitaires. Et ça, c'est un très gros problème. Il faut savoir prendre des distances avec les enjeux identitaires. Par contre, il faut être très attentif au jeu des alliances politiques, parce que les alliances politiques, elles amènent des gens au pouvoir et elles permettent donc d'avancer dans le combat contre l'islamisme. Voilà, donc il faut souhaiter des bonnes alliances politiques, mais il faut souhaiter que les Juifs ne perdent pas, on va dire, la boussole identitaire et sachent rester ce qu'ils sont, c'est-à-dire un peuple qui est issu du mont Sinaï. Voilà, on peut dire de cette manière-là, voilà ce qu'on peut dire sur cette actualité, vue du Beth Amidrash, vue à partir du centre d'études, à partir de la rivière de Torah.
Alors, moi, ce que je voudrais également vous poser comme question, c'est sur l'antisémitisme. Est-ce que vous avez l'impression que on vit une période difficile, donc les esprits s'échauffent, s'enflamment. Je parlais du gars Roissy, il a été chauffé par les réseaux sociaux, il n'est pas obligé d'être totalement équilibré, il y a plein de raisons. Bon, en ce moment, ce n'est pas marrant, quoi. Voilà. Y compris pour nos enfants, ce n'est pas marrant. Ou est-ce que vous avez l'impression qu'en fait, on a réouvert la boîte à Pandore? Et là, c'est plus du tout pareil. C'est-à-dire qu'on avait fermé cette boîte de l'antisémitisme, qui d'ailleurs nous a fait de très belles années en France. Hein. Moi, j'ai passé des moments... On ne m'a jamais traité de rien du tout quand j'étais à l'école. Hein. Donc, voilà, il y a eu 40 ans de bonheur pour les Juifs de France et il faut accepter que on va vivre différemment. Donc, je répète, est-ce que c'est, selon vous, un moment qui n'est pas marrant à vivre? Moment où où les gens se chauffent parce que l'histoire est chaude, et on est en période de guerre, quoi. Ou est-ce que, non, vous avez l'impression qu'on a réouvert une période qui, finalement, est grosso modo le lot habituel des Juifs en Europe depuis le Moyen-Âge?
On a réouvert une période, mais avec d'autres acteurs. C'est-à-dire qu'en fait, on vit maintenant le troisième totalitarisme, l'émergence du troisième totalitarisme de ces 100 dernières années. On a eu le nazisme, le communisme, maintenant on a l'islamisme. Et l'islamisme a déclaré la guerre au monde entier, de l'Australie à la côte ouest des États-Unis, en passant par Israël, l'Europe et la côte est des États-Unis et le monde libre. Et il a, comme tous les totalitarismes, ses idiots utiles, ses capos, ses collabos, et de l'autre côté, tous ceux qu'il a désignés comme ennemis, c'est-à-dire nous les Juifs et tous les autres. Donc, il faut aussi qu'on se rappelle tous qu'on l'est pris au milieu d'une guerre qui est une guerre mondiale. Ça commence avec nous, mais ça vise tout le monde. Parce que c'est un totalitarisme. Et comme le nazisme et le communisme, il a prétention à dominer et à oppresser l'ensemble de l'humanité. Donc, il faut qu'on soit à la fois capable de regarder ça dans la perspective historique messianique, parce que nos textes prévoient l'émergence de l'islam et d'un islam qui fera la guerre dans le monde entier, ça c'est la vraie chose, mais il faut aussi être capable de regarder dans le prisme politique en se disant que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a besoin d'avoir des alliances politiques pour pouvoir se battre contre cet islamisme, contre ce totalitarisme. Mais on a réouvert une boîte de Pandore avec d'autres acteurs.
Et concernant ceux qui s'interrogent un peu sur leur avenir en France, qu'est-ce que vous auriez... envie de répondre? Est-ce que vous trouvez... évidemment, un rabbin, il va vous dire « tu seras toujours mieux à Jérusalem, j'imagine ». Mais qu'est-ce que vous auriez envie de répondre à ce sujet-là?
Tout au long des générations, nos sages nous ont toujours dit de consulter nos textes et de se rapprocher de nos textes et de nos sources pour affronter les périodes de difficultés, d'oppression et de douleur. À l'époque du nazisme, le Hafetz Chaim recommandait de lire et d'étudier le comportement de Yaakov dans la section hebdomadaire de Vaishlar. Là maintenant, on est face à l'islamisme et on n'est jamais mieux que lorsque l'on est dans l'étude de la Torah, dans ce que nos sages nous proposent de vivre, c'est-à-dire de nous rapprocher d'Hachem, de nous rapprocher sur le plan spirituel, d'être beaucoup plus solidaires, d'être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus solidaires et beaucoup plus unis les uns avec les autres. C'est la clé. C'est la clé absolue et radicale dans ce qu'on est en train de vivre là maintenant. Et puis, concernant la Alia, je n'arrête pas de dire et de répéter que si on fuit, ce n'est pas la peine. Il faut venir en Israël. Israël est un projet essentiellement un projet de nature spirituelle. Eret Israël n'est plus souri, la terre d'Israël s'acquiert par des épreuves, et on peut s'économiser beaucoup d'épreuves si on comprend que quand on vient ici, on doit grandir sur le plan spirituel. Donc l'Aliya, oui, mais à condition que ce ne soit pas une fuite et que ce soit un vrai projet spirituel. Je crois que si certains l'envisagent, et à juste titre, par rapport à ce qui se passe en France, parce que la France est objectivement un pays difficile à vivre au quotidien pour beaucoup de juifs, il faut que ça soit l'occasion de grandir sur le plan spirituel. Mais l'essentiel, c'est d'abord de grandir sur le plan spirituel.
Rav Mordechai Biton, merci pour ces quelques paroles de Jérusalem, donc. Et ben, je vous souhaite Shavua Tov. Bonsoir à vous.
Shavua Tov.
Shalom leiboy na boy, Hashem lo yishmarich, Shav shokat shoy bay, Hashem lo yine bayis. Shalom leiboy na boy, Hashem lo yishmarich, Shav shokat shoy bay.
Et nous sommes en ligne à présent avec Rav Gay. Alors Rav Gay, quelles sont vos réflexions à l'avant-veille de cette nouvelle rentrée, après une année qui a été pour nous tous chargée de préoccupations, de doutes, d'incertitudes, quel est votre. À quoi vous avez envie de nous inviter à réfléchir ce soir?
Bonsoir et Shavua Tov. Certains se souhaitent une excellente année 2026. Évidemment, nous souhaitons toujours le meilleur pour la communauté et tous les jours. Mais il y a dans ce souhait une forme de bénédiction que Hachem fasse en sorte que l'année soit bonne. Nous savons tous que cet événement, c'est-à-dire la décision divine, n'intervient qu'à Rosh Hashanah, et donc pas du tout le 1er janvier, mais nous souhaitons quand même à toute la communauté d'être au mieux tous les jours et toute l'année. Simplement, je souhaitais donner une sorte de message d'optimisme. Nous abordons une nouvelle année civile. Effectivement, nous pouvons nous poser des questions sur notre avenir dans beaucoup de domaines. La paracha de Shemot, qui parle du début de l'exil, parle de deux femmes très courageuses, Yocheved et Myriam, qui malgré les injonctions, les ordres de Pharaon de tuer les enfants juifs, surtout les garçons juifs, Bnei Israël, à l'époque on ne parle pas de juifs mais de Bnei Israël, en utilisant leur position qui est celle de sage-femme, et donc ils ont accès à une proximité avec ces enfants et ils auraient pu simuler un accident. Pharaon, lorsqu'il leur demande cela, a priori, n'a aucun doute que ces deux faibles femmes ne pourront pas lui tenir tête. Et pourtant, c'est ce qu'elles font. Elles sont très courageuses, très déterminées, et surtout, elles ont Yirat Elohim, la crainte d'Elohim. Qu'est-ce que ça veut dire, la crainte d'Elohim? Lorsqu'on va voir un médecin, qu'on se plaint de maux de gorge, qu'on se plaint d'un rhume, et que le médecin découvre une maladie très grave, automatiquement, la peur de cette maladie grave éclipse les petits bobos du quotidien. On a oublié même ce petit refroidissement. Un homme a peur, il peut avoir peur de différentes choses. Ce que la Torah nous enseigne, c'est que les femmes juives avaient peur d'Elohim. C'est-à-dire que cette peur d'Elohim était si forte qu'elle éclipsait la peur de Pharaon et les rendait fortes. Au lieu d'être deux faibles femmes, elles étaient très fortes parce qu'elles étaient habitées par une crainte beaucoup plus forte qui est celle, crainte de désobéir à leur créateur qui, évidemment, ne souhaitait absolument pas la mort des garçons juifs. Parce qu'elles résistent, péril de leur vie, à cet ordre pharaonique, elles accèdent à ce qu'on appelle bait, une maison. Il leur a fait des maisons. C'est quoi ces maisons? Bate kihuna, bate levia, bate malchut. Des maisons de royauté. Elles seront les ancêtres du Mashiach, de David HaMelech. Elles seront les ancêtres aussi de Kohanim. Elles vont pouvoir donc, grâce à leur détermination, à leur crainte de Dieu, qui éclipse toutes les autres craintes, qui les rend plus fortes, elles créent quelque chose de solide, la malchut, la royauté qui, elle aussi, est habitée par un homme qui doit installer sur terre la peur du Créateur, pas la peur de lui, roi. Effectivement, il faut le respecter. Et s'il est roi, c'est Dieu qui a voulu qu'il le soit. Et son rôle, c'est de donner au peuple cette injonction, cette demande d'être plutôt ceux qui craignent Dieu que tout le reste. En cette période d'angoisse, de doute, nous devons nous inspirer de ces deux femmes. Yochevet donne naissance à Moshe. Myriam va encourager sa mère à se remarier. Moshe Rabbeinu va sortir les enfants d'Israël d'Égypte. La clé de la délivrance est déjà mise en place au début du livre de Shemot. Grâce à la détermination face à l'ennemi, grâce à la confiance en Dieu et surtout à la crainte de Dieu qui nous donne bizarrement cette crainte des forces. De n'avoir peur que de lui et de rien d'autre. Peur de ne pas faire les choses comme il faudrait. Chaque juif, chaque matin, lorsqu'il se lève, sa véritable peur, c'est de ne pas être à la hauteur de tout ce que Dieu attend de lui. Mais si c'est le cas, s'il a vraiment été à la hauteur, s'il a été au rendez-vous, il n'a peur de rien. Et c'est ce que nous devons nous rappeler tous les jours. Tout le secret, la sortie d'Égypte, déjà inscrit dans l'attitude de Yocheved et Myriam. Si un juif aujourd'hui évacue ses peurs en y installant une autre peur, mais la crainte de ne pas être à la hauteur face à son Créateur, eh bien cet homme-là aura réalisé sa mission, mais il aura aussi gagné en sérénité, en force, en détermination, en courage. Et c'est ce que Hachem attend de nous. Que jour après jour, nous relevions le défi d'être des mensches, des hommes, des personnalités inspirantes qui sanctifient le nom de Dieu et qui sont les Yirei Elohim, les craignants Dieu. Et il faut savoir que même les non-juifs sont impressionnés par des personnes de ce calibre. Le Rav Olbeu, dans son livre « Les Chours », témoigne que son maître, le Rav Yerucham Lebovitch, leur avait dit que, il écrit dans la Gemara, « Celui qui craint Dieu, ses paroles sont écoutées. » Et qu'il avait fait un test sur lui-même. En intervenant dans un marché fréquenté par des non-juifs, il avait commencé à prendre la parole et tout le monde s'était tu. Et tout le monde l'avait écouté avec attention. Parce que finalement, les hommes, ce qu'ils cherchent, c'est des vrais hommes, des personnalités inspirantes. La crise que voyons dans tous les pays d'Europe et du monde, au niveau de nos dirigeants, de nos leaders, vient du fait que nos leaders sont des gens élus, avec des calculs complexes, politiques, mais pas des gens qui s'imposent de par leur leadership naturel, par leur force de caractère, par leur courage. Et c'est ça le problème. Pour être un leader, il faut être Yirei Elohim, craindre Dieu. Et les hommes le sentent. Et ils sont attirés par ce personnalité hors du commun, qui les inspire, qui leur inspire du respect, qui n'a pas besoin de s'imposer par la force, il le fait par sa seule présence. La démocratie, c'est important. C'était une bonne avancée dans l'humanité. Et finalement aussi, effectivement, des rois sont devenus des tyrans. C'était pas facile de gérer. La monarchie a eu des excès, on le sait bien. Mais la démocratie ne répond pas à tous les problèmes. Parce qu'on élit des gens qui ne sont pas à la hauteur, simplement pour des calculs politiques. Nous aspirons tous à la venue du Mashiach. Il s'imposera non pas parce qu'il va être élu ou par la force, il s'imposera par sa dimension de Yirei Elohim, craignant Dieu, que tout le monde ressentira et tout le monde voudra le suivre parce qu'il sentira que la vérité est chez lui. C'est ce que je nous souhaite à tous, très vite, bientôt, que cette personnalité apparaisse et nous libère. Shavua Tov.
Rav Gueh. merci. Cette émission est à présent terminée. Elle était un petit peu spéciale. Bon, on a choisi de faire comme ça ce soir. On se retrouve évidemment la semaine prochaine pour reprendre notre étude hebdomadaire. C'est à mon tour de vous souhaiter à toutes et à tous Shavuot Tov.